Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires et ensuite l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. La rue suivante, magazine culturel, et vous pouvez également écouter l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Les représentants des journalistes des pays membres de l'IORA se réunissent en Inde. Le corps marine de TNI continue à la modernisation de l'outil pour faire face aux défis de la dynamique environnementale stratégique. L'Université de Brawijaya prépare un programme de conférence 3 en an. Indonésie, Malaisie développe un islam modéré et enfin, l'Indonésie a ouvert un atelier international sur le développement de la noix de coco. Voici le journal complet. Les représentants des journalistes des pays membres d'IORA se sont réunis en Inde le 12 jusqu'au 17 novembre 2017. Le gouvernement de l'Inde, en collaboration pour la première fois avec le secrétariat d'IORA à Maurice, a organisé une visite de familiarisation pour les journalistes de 21 pays membres de l'IORA dans certaines régions de l'Inde telles que New Delhi, Agra, Bangalore et Mysore. Cette visite a pour objectif de permettre aux journalistes des pays membres de l'IORA d'établir des réseaux afin de promouvoir la visibilité de l'organisation et d'encourager le dialogue et la coopération entre les médias des pays membres de l'IORA. Le secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, Vijay Gokhale, à New Delhi, en Inde, a récemment expliqué que l'IORA se concentrait sur l'expansion de la coopération économique régionale à travers une approche consensuelle. Pour cette raison, les connaissances de la communauté sur l'IORA doivent être améliorées. Selon lui, le public doit connaître les défis qui sont rencontrés par les pays dans l'océan Indien, tels que la connectivité, l'investissement et la sécurité maritime. L'intégration des médias est importante dans l'effort d'éduquer les gens dans le pays et pour projeter l'organisation dans la société à l'étranger. Le rôle des médias est de donner des aspirations sur notre visibilité et aussi d'encourager les sentiments au sein de la communauté que nous sommes connectés aux communautés du même océan. À la même occasion, le secrétaire adjoint de l'IORA, Sanjay Panda, a dit que l'avenir serait construit la plateforme électronique pour les médias des pays membres de l'IORA afin qu'ils puissent interagir et de discuter des questions liées à l'IORA. Les représentants des journalistes qui ont été présents, entre autres, Radio République Indonesia, The Western Australia, Iran Daily, Kenya Broadcasting Company, Somali SNTV, Representative et Malaysian National Agency Bernama. Lors de la visite, les journalistes ont l'occasion de discuter avec les dirigeants des institutions importantes en Inde, comme la Fondation Nationale Maritime et la Fédération des Chambres de Commerce Indiennes, FIWCI, Gas India Limited ou GAIL, The Energy and Resources Institute Infosy Limited ou l'Institut de l'énergie et des ressources InfoSys Limited et InfoSys. Le lieu historique en hante comme le Taj Mahal, Red Fort, Agra Fort, Mysore Palace et Lal Bagh sont également l'emplacement de la visite des journalistes de pays Yora pour se rapprocher de la culture et de l'histoire de l'Inde. Le Corps Marine de la Marine indonésienne au TNI AL commémorant le 72e anniversaire le 15 novembre 2007 pour répondre aux défis de l'environnement stratégique de la souveraineté indonésienne en mer, les marines doivent continuer à moderniser ses systèmes d'armes. La force minimale essentielle qui a conçu le gouvernement indonésien devrait renforcer les marines. Cela a été dit par le chef d'état-major de la marine au Kasal, l'amiral Ade Supandi, après la célébration du 72e anniversaire au quartier général du commandement maritime du Corps des marines Cilandak, Jakarta, mercredi. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ade Supandi, a également dit pour répondre à la modernisation du système principal d'armement défensif ou alutsista de marine, bien sûr, on a besoin de l'engagement du gouvernement indonésien pour que les marines puissent continuer à avoir la capacité et la posture de puissance de combat moderne. Ceci afin de démontrer la crédibilité de l'État pour maintenir la résilience et la souveraineté de l'État unitaire de la République d'Indonésie. L'Université de Brawijaya à Malang, dans l'est de Java, a le projet d'organiser un programme de conférence 3 en 1, impliquant 3 doyens dans un même sujet. L'un des 3 doyens qui enseignera le sujet sera amené de l'étranger. C'est ce qu'a déclaré le recteur de l'Université de Brawijaya, Muhammad Bisri, mardi, à Malang.
Nanti satu mata kuliah akan diajar oleh oleh 3 dosen. Mata kuliah diajar oleh 3 dosen.
Le programme 3 en 1 est un sujet qui sera enseigné par 3 professeurs, à savoir un professeur venant de l'étranger, un professeur de praticien et un professeur de lanterne. L'année prochaine, nous ferons venir environ 100 professeurs de l'étranger pour 100 sujets. En outre, nous enverrons également les professeurs à l'étranger. Mohamed Bisri a ajouté que les professeurs qui seront amenés à l'Université de Brawijaya ne sont pas seulement des professeurs provenant des pays développés. Sa partie invitera également des professeurs des pays en développement, en particulier des pays qui se joignent à la coopération sud-sud avec l'Indonésie. L'envoyé spécial du président pour le dialogue et la coopération entre religieuse et civilisation de Shamsuddin lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre malaisien Dato' Sri Zahidi Hamidi a affirmé « L'Indonésie et la Malaisie ont réussi à développer un islam modéré. Le succès de l'Indonésie et de la Malaisie à développer un islam modéré a eu un impact systémique sur la résurrection et la progression du monde islamique. Cela a été déclaré par Din Syamsuddin dans sa déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta mardi. Din Syamsuddin et Datuk Sri Zahid ont également discuté des efforts visant à développer l'harmonie entre les deux nations apparentées basées sur l'islam modéré. Le gouvernement indonésien a officiellement ouvert l'atelier international sur le développement de la noix de coco, participé par 15 participants de 13 pays d'Asie et du Pacifique à Manado, dans le nord de Sulawesi, du 14 au 17 novembre, organisé par le Centre de mouvement de non-alignés, de coopération technique sud-sud, du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec l'Agence de recherche et de développement du ministère de l'Agriculture et le Centre de recherche des plantes de palma de Sulawesi du Nord. C'est ce qu'a déclaré le directeur du Centre du mouvement des non-alignés pour la coopération technique sud-sud, l'ambassadeur Priyanti Gagarin Jatmiko Singhi à Manado mardi. L'atelier vise à fournir une introduction au développement des capacités en ressources humaines au pays producteurs de noix de coco, y compris le développement du secteur des petites et moyennes entreprises qui est basé sur la noix de coco comme ligne de produits et des mesures pour maintenir la qualité et la quantité du produit. l'Indonésie comme l'un des plus grands pays producteurs de noix de coco du monde a la responsabilité d'inviter et de partager des expériences sur les industries de la noix de coco au pays de la région d'Asie et du Pacifique. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteur, bonsoir. Voici donc le commentaire et pour le titre « Comprendre la tolérance dans la vie sociale ». Il y a 20 ans, précisément le 16 novembre 1995, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la déclaration sur le principe de tolérance. Depuis le 16 novembre, a toujours été commémoré comme la Journée internationale de la tolérance. L'une des façons de tolérer est de permettre à la liberté d'expression de s'épanouir dans la société. Le problème se pose lorsqu'il y a un groupe de personnes qui veulent confirmer leur domination sur d'autres groupes d'une manière qui nuit à la tolérance elle-même. Donc, la compréhension de la liberté d'expression est importante pour la tolérance. Il y a des principes qui soulignent la liberté d'expression. Premièrement, il vise à répandre la tolérance envers les autres. Deuxièmement, il n'est pas utilisé pour nuire aux autres physiquement et psychologiquement, sans raison légitime selon la morale et les lois. Les deux principes sont attachés l'un à l'autre, qu'ils ne peuvent pas être séparés. Par conséquent, la liberté d'expression a ses limites. Il y a une ligne qui sépare les zones où les gens obligent d'appliquer la tolérance aux zones où la tolérance a le mauvais impact pour l'humanité. Vivre la vie sociale ne peut être nié. Il y aura des frictions ou des malentendus entre les groupes de personnes, qu'ils soient liés à la religion ou à la race. Pour maintenir l'unité dans la société, tout le monde doit se respecter les uns les autres pour éviter les disputes ou les conflits qui peuvent surgir dans le contexte des relations qui sont de plus en plus tendues entre les communautés religieuses. Les causes de tensions parmi les personnes religieuses sont, par exemple, le manque de connaissance des adeptes de leur propre religion et d'autres religions et le manque de compréhension mutuelle face à la question de la dissidence. En outre, il y a souvent une suspicion d'autres parties, que ce soit parmi les personnes de religions différentes, de problèmes internes entre les communautés religieuses ou entre les communautés religieuses et le gouvernement. La tolérance ne peut être atteinte que si chaque groupe se respecte dans la vie religieuse. Si cette attitude peut être réalisée, elle aura une signification significative pour le progrès et la vie de la société plurielle. Dans l'ouverture de l'article 29, paragraphe 2 de la Constitution 1945, a déclaré que l'État garantit l'indépendance de tout citoyen pour embrasser sa propre religion et pour pratiquer son culte selon sa religion et ses convictions. Ainsi, les citoyens indonésiens comprennent naturellement les droits et l'obligation de chacun pour maintenir l'intégrité de l'État et soutiennent l'attitude de tolérance mutuelle dans la nation et la religion. Quelle élégance si chaque parti, groupe ethnique et religieux est tolérant et pas arrogant. Parce que ce pays a été fondé non seulement par des gens avec une religion particulière, mais aussi par ceux avec d'autres religions. Sur le talk, c'est le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Indonésie. dans le programme Histoire d'aujourd'hui, le 16 novembre. 16 novembre 1904, John Fleming a créé un tube à vide. John Ambrose Fleming est un expert en génie électrique et physicien britannique. Il devient le professeur dans plusieurs universités, dont l'Université de Cambridge, l'Université de Nottingham et l'Université College à Londres. En électronique, un tube à vide est un appareil normalement utilisé pour amplifier un signal. Le tube à vide a été inventé et breveté par John Ambrose Fleming le 16 novembre 1904. Cette invention est souvent appelée l'origine de l'électronique parce que c'est le premier tube à vide. Le 16 novembre 1995, l'UNESCO a adopté et annoncé la Déclaration des principes sur la tolérance à Paris, en France. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, à l'occasion du 55e anniversaire le 16 novembre 1995, a adopté une Déclaration des principes de tolérance. La déclaration affirme que la tolérance est un hommage, est une appréciation aux diverses cultures du monde en tant que forme d'expression et de la façon dont nous devenons humains. La tolérance reconnaît les droits de l'homme universels et les libertés fondamentales des autres. Les humains sont naturellement divers. Seule la tolérance peut assurer la survie des communautés mixtes dans toutes les régions du monde. Pour commémorer le jour de la Déclaration des principes de tolérance, le 16 novembre est désigné comme la Journée internationale de la tolérance. La première Journée internationale de la tolérance est commémorée le 16 novembre 1996. Le but de cet avertissement est de sensibiliser le public à l'importance de l'attitude tolérante dans le maintien des relations entre les gens. Le 16 novembre 2002, la maladie du SARS a été enregistrée pour la première fois au Guangdong, en Chine. Le SARS est une maladie causée par le virus corona du SARS. Les patients atteints du SARS éprouvent une détresse respiratoire aiguë et peuvent causer la mort. La maladie du SARS est apparue pour la première fois en province Guangdong, en Chine, du sud, le 16 novembre 2002. À cette époque, le cas était considéré comme une pneumonie atypique ou une pneumonie causée par des micro-organismes qui ne pouvaient pas être identifiés par la technique diagnostique standard de pneumonie. Puis, en février 2003, le SARS a été identifié pour la première fois. En juillet 2003, il y avait plus de 8000 cas de SARS qui ont causé 774 décès et se sont étendus à 37 pays. Auditeurs et auditrices, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici la mise au point intitulée « L'Indonésie est le pays le plus préparé dans la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN ». L'Indonésie atteint le pourcentage le plus élevé en termes de préparation et d'engagement dans la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. Il est écrit dans l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action de la CEA 2025 à la 15e réunion du Conseil de la communauté économique de l'ASEAN qui a eu lieu à Manille, les Philippines. Le ministre indonésien du Commerce, M. Enggartia Solukita, a souligné que l'Indonésie a prouvé à l'ASEAN sur la préparation et l'engagement dans la communauté économique de l'ASEAN. Dans une déclaration écrite à Jakarta le lundi 13 novembre, le ministre a déclaré que l'engagement de l'Indonésie à la mise en œuvre de la CEA était montré à travers la réalisation de la plus haute mise en œuvre de la priorité annuelle de la CEA 2017 par rapport aux autres pays membres de l'ASEAN qui est d'environ 60%, les autres pays de l'ASEAN n'atteignent que 52%. Le ministre Engartia Solukita a souligné que la réalisation de la mise en œuvre de la priorité annuelle dans l'ASEAN continue d'augmenter jusqu'à la fin de cette année, comme la preuve de sérieux de l'intégration économique de l'ASEAN, notamment à l'âge de 5 ans. Il a déclaré que l'Indonésie a prouvé à l'ASEAN qu'elle est prête pour la préparation et l'engagement dans la communauté économique de l'ASEAN, ou CEA. Sous la présidence actuelle des Philippines, l'ASEAN a réussi à terminer 11 initiatives prioritaires économiques de l'ASEAN, entre autres croisières, ASEAN Roll on Roll Off Davao General Santos Bitu, le Business Inclusive, le programme de travail de commerce électronique 2017 jusqu'à 2025 et l'indicateur de facilité de commerce illimité de l'ASEAN. Le directeur général des négociations commerciales internationales, M. Imam Pambagio, a déclaré à la même occasion qu'il y avait des questions importantes pour le futur de l'ASEAN. L'ASEAN doit continuer à renforcer la coopération intersectorielle et interpilier pour réaliser la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN 2025, y compris le commerce électrique, les bonnes pratiques de réglementation, les chaînes de valeur mondiales, le cadre réglementaire de la sécurité alimentaire de l'ASEAN et la carte de voyage d'affaires d'ASEAN. À l'heure actuelle, l'économie de l'ASEAN occupe le 6e rang dans le monde et 3e en Asie, avec le produit intérieur brut au PIB 2,55 trillions de dollars américains en 2016. La projection de la croissance économique de l'ASEAN atteint 5% en 2017 et 5,1% en 2018. La valeur du commerce ASEAN du monde atteint 2,24 trillions de dollars américains, 23,1% d'entre eux est le commerce intra-ASEAN. Alors que les investissements dans l'ASEAN ont atteint 98 milliards de dollars américains en 2016 et 25% d'entre eux sont des investissements intra-ASEAN. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien a officiellement ouvert l'atelier international sur le développement de la noix de coco, participé par 15 participants de 13 pays d'Asie et du Pacifique à Manado, dans le nord de Sulawesi, du 14 au 17 novembre, organisé par le Centre de mouvement de non-alignés, de coopération technique sud-sud, du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec l'Agence de recherche et de développement du ministère de l'Agriculture et le Centre de recherche des plantes de palma de Sulawesi du Nord. C'est ce qu'a déclaré le directeur du Centre du mouvement des non-alignés pour la coopération technique sud-sud, l'ambassadeur Priyanti Gagarin Jatmiko Singhi à Manado mardi. L'atelier vise à fournir une introduction au développement des capacités en ressources humaines au PUP producteurs de noix de coco, y compris le développement du secteur des petites et moyennes entreprises qui est basé sur la noix de coco comme ligne de produits et des mesures pour maintenir la qualité et la quantité du produit. L'Indonésie, comme l'un des plus grands pays producteurs de noix de coco du monde, a la responsabilité d'inviter et de partager des expériences sur les industries de la noix de coco aux pays de la région d'Asie et du Pacifique. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Et chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Sulawesi du Sud-Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix d'Indonésie. Le Parc National Wakatobi dans le district de Wakatobi à Sulawesi du Sud-Est est l'une des 10 destinations touristiques prioritaires de l'Indonésie. Le Parc National, inauguré en 1996, est le deuxième plus grand parc marin national d'Indonésie qui abrite 90% des espèces de coraux du monde et plus de 942 espèces de poissons. Pas étonnant si beaucoup de touristes locaux et étrangers se rendent à Wakatobi. En visitant le district de Wakatobi, non seulement la beauté de l'attraction touristique du parc national de Wakatobi que vous pouvez apprécier, il y a encore beaucoup d'autres attractions, entre autres la grotte de Kontamale. La grotte de Kontamale est une grotte des eaux douces située au village de Wanchi, le district Wangi-Wangi, sur l'île de Wangi-Wangi. L'une des caractéristiques de Kontamale est son emplacement stratégique. La distance de Kontamale à l'autoroute est seulement 100 mètres. Par la communauté environnante, la grotte Kontamale est mieux connue comme bien public. Mais contrairement aux bains publics en général, Kontamale possède des eaux propres et des paysages époustouflants. Formé entre la niche de grotte Karangwachi et Sombu, le bain Kontamale a l'eau claire et bleue typique ainsi que la beauté sous-marine de Wakatobi. L'eau qui se trouve dans la grotte provient de la rivière qui se trouve dans le sol, puis s'écoule dans la mer ouverte. C'est pourquoi les eaux sont propres et claires. La grotte du lac est assez large et profonde. Il y a une piscine avec les eaux claires. Dans le plafond de la grotte, il y a une stalactite. Voyager à Kontamale, vous devez profiter de la fraîcheur et la clarté des eaux en se baignant et nageant. Lorsque vous nagez ou baignez à Kontamale, vous devez choisir l'emplacement car il y a des endroits très profonds et certains sont peu profonds. En plus des eaux claires, la voûte des arbres ombragés ajoute à la belle cette zone touristique. Pour se rendre à la grotte Kontamale, vous pouvez utiliser le transport aérien dans le but de l'aéroport Halualiu Kendari. Puis changer les moyens d'utiliser le paquebot avec le port de destination Erika Wanchi. La distance de la grotte Kontamale s'étend de 10 jusqu'à 15 minutes en moto de terrain Merdeka à la ville de Wangi-Wangi. Pour les habitants, le nom de Kontamale a sa propre signification. Kontamale se compose de deux mots tels que Konta et Male. Konta signifie saisir et Male signifie flairerie. En plus d'avoir une beauté naturelle, cette grotte est censée de stocker certains mythes. Par la communauté locale, la grotte Quantamalé est censée de faciliter le compagnon. Les gens locaux croient que s'il y a un couple qui est difficile à épouser, ils peuvent se baigner dans cette grotte afin de se marier facilement. Les gens croient cette eau souterraine pour faire fondre les gens au cœur dur. C'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur l'Indonésie Adventure Festival 2017. Donc restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix d'Indonésie. L'une des îles en Provence, Nusa Tenggara Est, est une destination touristique exotique dans l'est de l'Indonésie. Sumba, qui se compose de 4 districts, ont des caractéristiques de leurs régions respectives. Par exemple, Sumba Central est connu des rituels traditionnels de Purung Takadongaratu, qui signifie littéralement dans la vallée de l'imam, visant à demander la bénédiction de la pluie d'ancêtres de que leur culture de riz ne soit pas sec et ne souffre pas de la faim. Le tissage artisanal devient l'attraction principale de la région Sumba Est. Le tissu tissé dans cette zone est généralement utilisé pour les vêtements traditionnels lors des cérémonies traditionnelles et comme souvenir. Sumba Ouest et Sumba du Sud-Ouest ont une tradition pasola, qui est un rituel d'action de grâce sous la forme d'un jeu d'extérité. Ce jeu est exécuté par deux groupes opposés et lance le javelot en bois sur le cheval qui est conduit. Cela devient un rituel sacré et peut être une attraction pour les touristes. Tous ces potentiels touristiques des gouvernements locaux continuent d'être développés et promus en des efforts promotionnels et à travers Indonesia Adventure Festival 2017. Indonesia Adventure Festival IAF avec le thème Explorer Tanah Humba 2017 a lieu sur l'île Sumba, Nusa Tenggara Est, du 14 au 19 novembre 2017. L'événement de cette aventure est un effort pour promouvoir et augmenter la visite touristique à l'île Sumba, Nusa Tenggara Est, soutenant le but de 20 millions de visites de touristes étrangers, de 175 millions de mouvements touristiques nationaux dans le pays en 2019. Esti Reko Astuti, le vice-directeur du marketing du développement touristique de Nusantara, du ministère du tourisme, représenté par le directeur adjoint du marketing de la communication du tourisme Nusantara, Putu Murah, a salué ce quatrième événement qui a un impact positif sur le renforcement de l'élément 3A, attraction, accessibilité et aménité. Thank you. Un total de 100 participants de l'intérieur et de l'étranger, y compris les médias nationaux, les photographes et les agents de voyage, participent au Indonesia Adventure Festival Explorer Tanahumba 2017 pour une aventure explorant 24 sites touristiques sur l'île Sumba. Depuis Sumba Sud-Ouest jusqu'à la fin en région Sumba-Est, les participants restent dans le village traditionnel suivant les cérémonies traditionnelles, les danses traditionnelles, les courses de chevaux traditionnelles, la procession de fertilisation Ikat et s'unissent dans une série de spectacles de touristes. L'événement Indonesia Adventure Festival qui s'est tenu à Lembata en 2014, suivi de 120 participants, puis s'est poursuivi à Alor en 2016, suivi de 150 participants, et la mise en œuvre de Indonesian Adventure Festival Explore Tanahumba 2016 s'est déroulé sur l'île Sumba, suivi de 100 participants qui se sont poursuivis en 2017. Cette année, suivi de 100 participants de l'intérieur et de l'étranger. Auditeurs, c'était Indonésie en couleur sur le titre Indonesia Adventure Festival 2017.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse talentueuse d'Indonésie, Chris Dayanti. Voici donc sa première chanson intitulée « Ce que tu veux ». Bonne écoute. Kau tak perlukan buku harianku. Serviteur, c'était la chanson de Krisdayanti intitulée Ce que tu veux. La carrière de Krisdayanti au KD dans la musique a commencé quand elle a gagné le festival Asia Bagus au Japon en 1992. Elle a rejoint Warner Music Indonesia et a sorti son premier album en 1995 intitulé Ce que tu veux. Depuis le succès avec le hit single intitulé Menghitung Hari en Malaisie en 1998, le nom Krisdayanti est plus connu. Le point culminant de sa carrière a été marqué par le succès de son premier concert solo intitulé KD en 2001 qui l'a conduite au titre pop diva Indonesia. Selon l'information, KD est devenue la chanteuse la plus chère au cours de la décennie des années 2000. Bon, c'est retard, écoutons maintenant la deuxième chanson de KD intitulée Comme tel les jours. Bonne écoute.
Menghitung hari detik demi detik masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari padamkan saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hatimu bukan puitis pergi saja cintamu pergi. Saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hatimu bukan puitis pergi saja cintamu.
Secretaire, c'était la chanson de KD intitulée Comme tel les jours. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Comme l'une des chanteuses la plus réussie dans l'industrie de la musique indonésienne, Krisdayanti a été honorée de plusieurs prix tant à l'intérieur et à l'étranger. Krisdayanti ayat nomé lang de di plus grand artiste asiatique par Channel 5 en 2015. Kade agal mangkang pokte anugerah khas dang la performance anugerah Planet Music 2007 à Singapour grâce au résultat et son dévouement dans l'industrie de la musique. Krisdayanti est aussi l'une des 99 femmes les plus influentes en Indonésie. La version du magazine Globe Asia pour l'édition d'octobre 2007 et les 50 meilleurs chanteurs indonésiens de tout le temps, la version du magazine Rolling Stone pour l'édition décembre 2010. L'âge n'est pas un obstacle pour Kade de continuer à travailler. Récemment, Krisdayanti prépare les sanctions internationales avec son mari Raul Lemos. Kade vient de terminer l'enregistrement des sanctions gérées directement par le producteur Matteo Camargo aux États-Unis. Matteo Camargo, connu comme un producteur de Froid Main, Shakira et Justin Bieber sont les chanteurs mondiaux qui ont collaboré avec lui. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Krisdayanti intitulées « Je ne peux pas » et « Je t'aime ». Bonne écoute et à bientôt.
Thank you.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.